s'approprier cette élection. Et il dit, je vous ai choisi parce que je vous aime. Alors là, je vous aime, c'est la première fois que dans la Bible on voit une chose pareille. Hein. Il y a une dimension affective. Alors là, ben, c'est totalement inexistant dans le sacré. Hein. Le sacré des empires, il n'y a pas cette notion d'amour. Hein. Or là, il crée une notion d'amour. Vous êtes un Ramessis de gens, mais je vous ai choisi parce que je vous aime. Et il ajoute, parce que j'ai fait un serment à vos pères. Parce qu'il avait fait une promesse. Donc il y a une sorte de fidélité à cette promesse. Et que dans cette fidélité à cette promesse, il aime ce peuple-là. Ce peuple de vauriens, finalement, hein, quand même. Alors, un peu plus loin, il dit, ne va pas te dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à la prospérité. Parce que la promesse, ils vont aller dans une terre où ils vont devenir prospères. Mais, avant qu'ils y arrivent, il y avait les praviens. Pas fou. Il connaît l'homme et il dit, ne va pas croire que cette prospérité sera le fait de ton mérite. Hein, la tendance naturelle, c'est de dire, vous savez, le marché, hein, si vous réussissez dans la vie, ben, c'est par le mérite. Hein, il faut travailler, il faut être compétent, et là, si vous accumulez des mérites, et ben vous serez riche. Hein. Donc la prospérité, c'est la tendance naturelle. Et là, il le met en garde. Vous allez vivre une prospérité, mais surtout, cette prospérité, ne l'attribuez pas à vos mérites. Mais souviens-toi que c'est Yahvé ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à la prospérité. Cette prospérité, il va avoir la force. Il va avoir la force. Mais que cette force, elle ne vient pas. Elle n'est pas méritante. Méritoire, enfin, je ne sais pas comment dire. Hein? Et si jamais tu en viens à oublier Yahvé ton Dieu, c'est-à-dire que si tu en viens à oublier la loi, hein, si tu suis d'autres dieux, des idoles, des empires, si tu te mets à suivre ces d'autres dieux, parce qu'ils vont aller en terre de Canaan, ils seront entourés que d'autres dieux. Chaque peuple, hein, et les dieux, là, ce sera Baal, ils vont devoir s'implanter dans des territoires où il y a d'autres dieux. Et si tu sers d'autres dieux, si tu te prosternes devant eux, je l'atteste contre vous aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement.
On passe de la liberté à la soumission.
Alors, voilà.
C'est quelle citation ?
C'est ça, Deutéronome 8:17. Vous disparaîtrez comme les nations, tous les peuples, que Yahvé a fait disparaître devant vous. Ainsi, vous disparaîtrez pour ne pas avoir écouté la voix de Yahvé. Ah ! Là, c'est des menaces, quand même. Donc, il y a bien une promesse de prospérité, une promesse qui est d'une certaine façon inconditionnelle, et puis en même temps, il y a une condition. Vous voyez, là aussi, il y a paradoxe et apparente contradiction. Maintenant, ce texte-là, il est, si on le lit d'une façon symbolique, hein, on peut faire une lecture à prenons ne serait-ce qu'à notre époque. Notre époque. Quels sont les dieux de notre époque? La finance, les grandes sociétés internationales, ce sont eux qui ont la puissance, la grandeur. Et puis nous, qu'est-ce qu'on est? Un ramassis de gens face à ça. On n'existe pas. Hein, on existe très peu. On essaie de s'imposer, enfin, on essaie de vivre notre idéal, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir. Or, dans la promesse, il y avait dit qu'il va faire de la place au peuple, au ramassis de gens. Et je vais vous faire de la place, puisqu'il s'agit de rentrer dans un territoire, et il y a des gens qui sont là. Donc il va dire, je vais vous faire de la place. Aujourd'hui, on peut dire, quelle est notre place face à ces idoles, à ces puissances, hein. Et il faut se dire qu'avec Dieu, Dieu va nous faire de la place. Et avec une force qui nous sera donnée. Vous voyez, hein, qui nous sera donnée, nous pauvres, eh bien, et il spécifie que toutes ces puissances n'ont pas d'avenir. Elles vont être détruites. Et si vous suivez ces idoles, si vous allez dans le sens de cette idolâtrie, hein, de la finance, si vous allez dans ce sens-là, eh bien, vous serez associé à eux, vous disparaîtrez. Ce qui va vivre, c'est autre chose. La vie va passer par une autre voie que la puissance. Et quand le peuple va arriver, va quitter le désert et s'affronter donc à ce pays inconnu, ils vont envoyer des explorateurs, éclaireurs, hein, pour voir comment est le pays, par où ils vont pouvoir rentrer. Et donc, il y a quelques personnes qui vont aller au pays et qui vont faire un compte-rendu en rentrant. Et le compte-rendu, eh bien, c'est dit, là, c'est habité par des géants. Ouais. Nous, on est des pauvres nuls à côté, hein. C'est comme si vous disiez, voilà, par rapport à ces empires, vous allez créer une société, et puis, face à Apple, Google, qu'est-ce que je vais exister par rapport et il renonce. Le peuple dit, je ne vais pas aller, hein, face à ces géants, je ne vais pas m'aventurer comme ça, c'est de la folie, quoi. Et Yahvé va insister. Et leur dit, allez-y, je serai avec vous, hein, pour affronter les géants. Et effectivement, ils finissent par devoir y aller quand même, hein, et ils vont être victorieux. Hein. C'est tout à fait surprenant, il va y avoir des combats, hein, des combats entre tribus, tout ça, hein, il faut voir le contexte de l'époque. Hein, mais voyez que dans ce passage-là, où ils vont devoir se battre pour trouver une place, mais ça devait être des petites batailles, hein, ça devait être par rapport à ce qu'on connaît. Et en fait, ils vont être aussi accueillis. Hein, ils vont être assez accueillis. Autre chose un peu intéressante, c'est que quand ils vont rentrer, ils vont être aidés par une femme qui s'appelle Rahab, qui est une prostituée. Là aussi, vous voyez, le ramassis de gens et là, le passage se fait par une femme, une prostituée. Pas non plus qu'il y a spécialement glorieux, quoi. Hein. Vous voyez que le texte biblique démystifie totalement. Parce que ça, c'est le récit de l'arrivée dans le territoire. Et ils le doivent à une femme. Pour femme, une prostituée. Vous voyez, donc c'est pas extraordinaire comme. Mais voilà, donc ils vont pouvoir s'installer. Ils vont s'installer dans ce pays. dans ces conditions. Vous voyez que la leçon à tirer est symbolique. Hein, donc, c'est écouter sa voix. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Si vous écoutez ma parole, eh bien, je serai avec vous. Je serai avec vous et vous allez pouvoir vivre, vous installer et vivre. Voilà, c'est ce qui se passe. Et le peuple hébreu s'installe dans ce pays, s'organise avec d'autres. Voilà. Ça va être très, très imbriqué avec les populations locales. Hein. Faut bien voir aussi que ce n'était pas des nations. Hein. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites. Tout ça, c'était des nomades qui se. Et ils se mettent d'accord pour avoir en fait le territoire de montagneux, c'est-à-dire finalement la Palestine d'aujourd'hui et les Philistins, qui étaient sur place, eux ont gardé le bord de mer, hein, la partie la plus riche, et ils leur disent bah, très bien, installez-vous là. Bon. Et ils s'installent, mais alors ils ont ce peuple. A théoriquement une loi, à laquelle ils sont chargés d'obéir, ils ont maintenant un territoire. Reste la question, alors ils ont une religion, puisque dans le haut désert, il va y avoir un culte, et ce culte, c'est un culte pas très différent des cultes environnants, hein, il y a des sacrifices, hein, simplement. Ces sacrifices vont avoir une action mémorielle, c'est-à-dire se ressouvenir de la sortie d'Égypte. On va des événements. Ce qui l'introduit, c'est que ce sont des événements. On va fêter des événements historiques. Et on va voir que le peuple juif, tout au long de son histoire, va rajouter des fêtes en fonction des événements qu'ils vont connaître, et des drames d'ailleurs. En fonction des drames qu'ils vont traverser. Donc, il va y avoir un culte fondé sur les sacrifices. Il y a fameux épisode où ils tuent des animaux et Moïse envoie le sang sur toute la foule.
Ça, c'est dans le désert, ça.
Dans le désert, oui, c'est dans le désert. Mais, je veux dire que dans le désert, il y a eu la création du culte. Donc, ils arrivent là avec ce culte. Par contre, au niveau du gouvernement de ce peuple, hein, il n'y a pas grand-chose. Ce sont des tribus. Il y a bien Moïse, mais qui n'est pas du tout un dictateur. En plus, lui, il n'a pas eu le droit de rentrer dans le territoire, il meurt avant. Donc, il se retrouve, hein, toutes ces tribus se retrouvent, ils se partagent. Un peu au travers de ces 12 tribus, ils se partagent le territoire. Mais ils n'ont pas de gouvernement central et ils se gèrent comme une tribu des anciens temps. Mais cette organisation fait que ça tourne très vite à l'anarchie. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et puis surtout, ils vont se mêler aux populations locales et ils vont pratiquer des cultes mélangés. Hein, mélanger le culte à Yahvé avec le culte à Baal, à Astarté. Bon. Et puis la loi, eh bien, elle n'est pas forcément très, très, très appliquée. Hein. Et là, ça va provoquer une anarchie. À ce moment-là, il y a toutes et ça va durer, mettons, 200 ans, 300 ans, enfin, ce qu'on appelle l'époque des juges, hein, où il y aura des interventions très très ponctuelles de Yahvé à travers des juges, ce qu'ils appellent des juges, qui, le terme de juge pour nous, c'est celui qui exerce la justice. Hein. Mais là, c'était beaucoup plus que ça. Hein. Les juges, c'est ceux qui sauvent le peuple. Qui sauvent le peuple, c'est-à-dire que le peuple est sans arrêt au bord du désastre, finalement. Hein. Et donc, il faut des actions pour le sauver. Et successivement, durant ces 300 ans, il y aura l'intervention de juges qui vont miraculeusement, plus ou moins miraculeusement, sauver le peuple, qui est à chaque fois au bord de l'abîme, parce que justement, il n'y a plus de loi, il n'y a pas de structure. Bon, jusqu'au moment où, à ce moment-là, le peuple se dit, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on crée un gouvernement politique, comme toutes les autres nations. Or, les politiques des nations environnantes, c'est qu'il y avait des rois. On retombe sur les empires. Donc, ils réclament un roi. Et ils s'adressent à Samuel, qui était, bon, qui est une sorte, peut-être le premier des prophètes. Enfin, et ils vont le voir. Alors, bon, je ne rentre pas dans la genèse des prophètes, de ce qu'est un prophète, mais enfin, disons que c'était des chamans, des gens qui avaient un lien plus ou moins magique et